Dans le cadre du prix du concours des jeunes metteurs en scène du Théâtre 13, pour lequel théâtre.com est partenaire, nous avons le plaisir de recevoir Augustin Billedoux et Julie Duquesnois. Pour Ni Dieu ni Diable. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Alors, quel est votre parcours artistique à tous deux? Alors, qui veut commencer?
Ben, Julie.
Ah ben, très bien. Voilà. Ben, écoutez, alors, mon parcours artistique, alors j'ai commencé par l'école Claude Mathieu. Qui est une école de théâtre dans le 18e de Paris, parce que c'est une école de comédiens. Mmh. Voilà, j'avais auparavant fait une mise en scène quand j'étais à la fac, ça m'avait plu. Et puis j'étais très attirée par le théâtre depuis bien des années. Et arrivée à l'école, j'ai été sûre de mon choix via les rencontres que j'ai faites, via les découvertes aussi que j'ai pu faire. Donc après l'école, j'ai commencé à jouer avec des amis que rencontrés à l'école dans des pièces comme des classiques comme Marivaux ou des pièces de Lope de Vega. Et puis j'ai commencé à être professeur de théâtre aussi dans une troupe amateur avec qui je fais des mises en scène avec eux du coup depuis 7 ans. Et puis voilà, j'ai fait aussi beaucoup de régie, lumière, parce qu'en tant que metteur en scène, ça me manquait un peu de connaître les lumières.
Ça aide.
Voilà, donc je me suis formée avec un ami, Jean-Philippe Morin, qui m'a un peu trimballée dans toutes ces expériences pendant 2 ans. Et puis j'ai fini par atterrir au théâtre de l'Essaillon, où là j'ai commencé à être régisseuse. Et je continuais parallèlement à tout ça mes autres projets.
On s'est peut-être rencontrés.
Ah, c'est possible. Et voilà, et puis...
Et le spectacle de tes amateurs, c'est quand? Dans quelques jours? Non, je ne sais pas si on va faire de la pub en même temps.
Ah, il n'y a pas de problème.
Ah, bah alors, le spectacle de mes amateurs, c'est les 12, 13 et 14 juin à Notre-Dame de Passy.
C'est-à-dire après la diffusion du podcast.
Voilà, c'est ça.
Et c'est dans quel théâtre?
Alors, c'est dans la crypte de l'église Notre-Dame de Passy, voilà. C'est la troupe des cerfs-volants.
Bon, très bien, voilà.
Voilà.
Alors, Augustin?
Et moi, je suis romancier pour le parcours artistique, puisque je travaille à côté, mais j'ai publié mon premier roman en 2012 chez Gallimard, qui s'appelle Le Messie du peuple chauve, et un deuxième roman chez Rivage, qui est une nouvelle collection qui a été lancée par Actes Sud. Donc mon deuxième roman qui s'appelle Les Joueuses, et qui parle de deux jeunes comédiennes, justement, donc Destin bascule, le jour où elles tombent amoureuses d'un metteur en scène et homme religieux brésilien.
C'est autobiographique alors.
C'est, en fait, enfin, ça n'empêche pas de toujours glisser un peu de soi quelque part, même dans un personnage féminin d'ailleurs, voire deux,
bien sûr.
Mais t'as quelque chose de brésilien quand même.
Peut-être le foot. Non, en France, en fait, c'est pas le. Le... Et...
Non, le foot, non.
Ouais, non, c'est pas le bon moment d'évoquer le foot au Brésil. Et qu'est-ce que je voulais dire sur les joueuses? Oui, je décris aussi la précarité de l'ambition de vivre de théâtre aujourd'hui. En France en particulier, pour les jeunes compagnies, et parfois la désillusion qu'il peut y avoir quand on sort d'une école de théâtre et qu'on a rêvé de jouer des textes de Shakespeare, de Molière ou de Victor Hugo, des Lucrèce Borgia, et qu'on joue beaucoup de comédies de seul en scène qui parlent du couple et qui sont somme toute assez médiocres. C'est ce que je voulais décrire dans ce deuxième roman, et ça m'a amené du coup à adapter Les Deux Étendards, un roman, et donc ce qui constitue ma première pièce, qui est Ni Dieu ni Diable.
Qu'est-ce qui vous a amené donc au théâtre alors? Parcours de romancier,
ouais.
Excusez-moi, mais...
C'est une fille d'abord, mais je ne m'étendrai pas sur ce sujet, et je vais passer sur des spectacles que j'ai vus qui m'ont fait prendre conscience que le théâtre n'était pas 2 heures où on finissait par regarder sa montre et où on pensait à autre chose, où on décrochait très rapidement, des spectacles notamment de Wajdi Mouawad, de Joël Pomera, de Jean Bellorini, qui a été professeur. Ah oui, j'ai l'impression que ces spectacles vous ont pas totalement conquis.
Mais ça dépend duquel.
Ah oui, d'accord, on est d'accord.
Oui, on est d'accord, oui. Oui.
Ou alors je peux citer Jean Bellorini.
Complètement, hein.
Qui a été professeur de Julie à l'école Claude Mathieu et qui a été professeur de tous les comédiens qui sont dans cette pièce. Voilà, et donc c'est donc cette prise de conscience que le théâtre pouvait réunir des ingrédients comme le rythme, déjà, qu'il pouvait y avoir beaucoup de rythme, un peu comme on trouve au cinéma, qu'on pouvait faire appel à notre imaginaire et pas simplement nous représenter la réalité, mais plutôt l'évoquer. Voilà, qu'il pouvait y avoir de la musique sur scène, qu'on pouvait être libre en fait. Et donc je me suis dit, pourquoi pas initier ce genre de projet.
Le thème en deux mots de cette pièce.
Alors,
La révolte. La révolte d'une jeunesse.
Voilà, c'est ça, la révolte d'une jeunesse.
Qui refuse la médiocrité.
Alors, donc, le nom de la pièce est donc Ni Dieu ni Diable.
Ouais.
Donc, c'est la révolte d'une jeunesse. Et...
qui refuse la médiocrité artistique, qui refuse les désillusions amoureuses,
qui va essayer de se battre par et avec l'amour pour essayer de transcender un peu le monde et la vie dans lequel ils sont en train de se démener un peu justement dans ce combat qui mène les uns les autres en fait un peu à vouloir être ensemble pour combattre et en fait à pas vraiment trouver comment on peut y aller ensemble, l'axe commun.
C'est aussi donc la tentative de réintroduire un peu de sacré dans ce monde moderne dépoétisé. Et comment est-ce qu'ils pensent faire? Ben, tout simplement, ils ont un projet, c'est d'introduire l'amour chaste, mystique pour l'éternité, de la même manière que les hippies prenaient l'amour libre. Eux, leur projet, leur contre-culture révolutionnaire, qui défendent, on pourrait dire même de façon comme s'ils avaient un hymne et un drapeau, c'est leur
l'étendard, leur étendard.
Ouais. Les deux étendards. Alors
c'est vrai que maintenant, c'est-à-dire que par exemple, quand une cafetière est cassée, on va en acheter une autre directement au lieu d'essayer de la réparer. Voilà, c'est un peu ça. Et l'amour, on fait un peu pareil avec l'amour, on fait un peu pareil avec
c'est
tout.
C'est un peu du jetable, quoi, en fait.
Voilà, tout est un peu du jetable.
Mmh. On divorce de plus en plus, on va consommer sur Internet.
D'accord.
Voilà. Et je pense que donc, beaucoup de jeunes d'aujourd'hui peuvent se retrouver dans cette forme de révolte qui est évidemment une utopie et qui est poussée. Je ne suis pas sûr que beaucoup seront tentés par l'amour chaste. En revanche, je pense que ça peut faire réfléchir comme toute utopie.
Que représente pour vous ce prix ?
Ben déjà, c'est un défi, clairement. C'est se frotter un peu comme ça dès le début d'un projet, en fait, à la vie de professionnels qui vont pouvoir aimer, pas aimer, nous conseiller sur certaines choses. Voilà, avoir déjà dès le départ un axe de ça plaît pas, ça c'était très intéressant. Et puis.
D'être aidé alors qu'on a l'ambition de faire jouer plusieurs comédiens sur scène, ce qui devient compliqué aujourd'hui, et le Théâtre 13 a cette ambition-là, d'ailleurs il nous impose le critère de 6 comédiens sur scène, mais ça nous semble important pour garder un esprit de troupe et un esprit choral sur scène et ne pas tomber dans la réalité économique qui impose qu'il y ait de moins en moins de comédiens sur scène. Et aussi peut-être nous éviterait ce chemin de croix que connaissent beaucoup de jeunes compagnies, qui est de se faire parfois racketter par des théâtres qui proposent un million de garanties, mais qui eux-mêmes sont soumis à des contraintes budgétaires et qui ont un loyer à payer. Donc ils
n'ont
vraiment pas le choix d'aller ensuite à Avignon pour essayer de trouver éventuellement des diffuseurs, de tracter sous le cagnard par tant de degrés, de voir que le théâtre ne se remplit pas et que ça sent désespéré. Si ça peut nous éviter un peu ce chemin de croix, ce serait formidable.
Alors, quelles sont pour vous les principales qualités de ce spectacle, Julie ?
Alors, pour moi, c'est le texte. C'est déjà une des qualités du spectacle, parce que c'est un texte que je trouve vraiment... que j'ai tout de suite aimé l'écriture, la langue qu'Augustin a utilisée pour cette pièce, pour moi, est un atout principal. Mmh. Ensuite, les comédiens, qui sont des comédiens exceptionnels. Donc Ariane Brousse, Lou Delage, Damien Zanoli, Clément Séjourné, Pierre-Emmanuel Vos et Mathieu Graham. Qui sont
Lou Delage qu'on a vu à la périphérie.
Oui, voilà. Exactement, qui joue à la périphérie dans
Thomas
Berlorini. Ouais. Et qui sont tous dans 1000 projets, donc c'est vrai que pour nous ça nous fait parfois quelques petits soucis de planning.
C'est peut-être aussi la principale difficulté.
Voilà, c'est aussi.
J'imagine.
Complètement. Mais bon, on tient, on est encore debout.
C'est bon, là,
c'est vrai. Les acrobaties parfois sur les transports, certains qui arrivent le matin même et repartent 3 heures après. Mais
tout le monde, c'était là qu'on s'adapte et tout le monde s'adapte, on est tous.
C'est pas joueur,
on est tous à fond et on y arrive. Et puis voilà, en fait, pour moi, c'est aussi l'entente qui, à mon avis, le plaisir qu'on a en fait à répéter tous ensemble ce spectacle. Je pense qu'il va être quelque chose qui, sur scène, ça va dégager. On a tous envie de quelque chose de vivant. On a tous envie de quelque chose de.
Il est temps de jouer.
De différent. Ouais. Comment ?
Il est temps de jouer.
Voilà, oui.
Mais dans 2 semaines, c'est mieux quand même.
c'est bien que ce soit dans 2 semaines.
D'accord.
Mais oui, je pense que voilà, c'est ça. Pour moi, la qualité, c'est vraiment ça. C'est le...
Alors, j'ai une petite question subsidiaire pour Augustin, parce que, bon, passer des romans à une pièce de théâtre, c'est pas compliqué, en soi, d'écrire pour le théâtre. Parce que les contraintes sont différentes.
C'est une autre forme d'écriture et il faut évidemment apprendre à... Déjà, il faut avoir cette qualité dans un roman, mais encore plus dans une pièce de théâtre, apprendre à ne pas être bavard et à prendre conscience qu'il y a des gens qui vont parler sur les mots qu'on écrit et qui, parfois, auront du mal à dire. Et donc, il faut arriver à rendre tout ça le plus dissible possible et le plus naturel. Mais c'est aussi plus stimulant parce qu'on sait que derrière quelqu'un va incarner, va nous rendre ces longues heures de solitude à buter sur les mots.
Et aussi les silences qui sont aussi parfois très très importants.
Évidemment, c'est aussi ça. Ça m'a appris aussi à parfois ne pas insister sur les mots et préférer une indication sur la page de silence ou un temps.
C'est ce que oui, complètement. Eh bien, un gros merde pour vous tous.
Merci à vous.
Et puis, merci.
je vais prendre le but.
Ah, non,
on l'a refait. On l'a refait. Bon. Ouais. Donc, un gros merde.
Je prends.
Voilà.
Vous prenez tous pour le 20 juin. Moi, je vous dis merci. Donc, à très vite.
Merci à vous.